que je parte en vainqueur. Tout est dit. Je n'ai plus rien à dire. Merci Henri pour ce merveilleux chant. Et merci juste pour cette phrase, que je parte en vainqueur. Je n'ai pas envie de partir comme je suis arrivé. J'ai envie de partir en vainqueur. Et c'est le sujet de notre prédication de ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel, Samuel chapitre 17. Vous allez dire, oh, on a déjà lu ça. D'accord. 1 Samuel 17. On ne va pas lire tout le chapitre, on va lire quelques extraits. On commencera à partir du verset 3. 1 Samuel 17, verset 3. Je lis dans la version second 21. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. On fait un petit saut jusqu'au verset 24. 1 Samuel 17. Verset 24. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant: voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit: pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et ta méchanceté, et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Verset 45. David dit au Philistin: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je battrai, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et 3 versets dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deux Corinthiens, chapitre 10. Verset 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jusque-là, la parole de Dieu. Père éternel, nous voulons encore nous mettre devant toi, et comme ce chant nous disait, faire silence en nos cœurs pour te laisser toute la place pour nous parler. Nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin de ta voix. On nous dit, je t'aime. Seigneur, merci parce que nous pouvons être vainqueurs. Vainqueurs sur nous-mêmes, vainqueurs sur le diable, vainqueurs sur toute la puissance. Par toi, pour ta gloire. Amen. Il nous arrive de nous poser bien des questions parfois sur ce qui se déroule autour de nous, dans le monde, dans l'Église, sur le pourquoi du comment, sur les réponses, ou parfois les non-réponses de Dieu. Questions sur telle ou telle personne. Questions sur les événements de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé? Sur tel ou tel frère ou sœur de l'Église. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi il dit ça? Ou sur le déroulement parfois de notre semaine. C'est passé vite, hein? Mais qu'est-ce qu'on a fait encore? Toutes ces questions qui nous remplissent notre vie. Sans arrêt, on se pose des questions. Bonne ou mauvaise, suivant l'état où on est. C'est un peu comme dans le texte de David et Goliath. Je me suis étonné en lisant ce texte de voir que les dialogues sont que des questions. Généralement, que des questions. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Avez-vous vu s'avancer cet homme? Que fera-t-on? Qui tuera ce Philistin? Qui donc est ce Philistin? Pourquoi es-tu descendu ici? Pourquoi as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert? Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Toutes les discussions sont des questions. Questions, évidemment, demandent réponse. Logique, non? Mais d'abord, je voudrais planter le décor. Vous avez remarqué que le peuple de Dieu est sur la montagne, prêt à se battre. Ah, on est fort. Ah, on va aller là. Et, vous savez, j'ai marqué entre parenthèses le chant, ça m'est venu en tête comme ça, je veux monter sur la montagne. Et on est là sur la montagne, on est fort. Ah, c'est là. Bon, si le caillou blessait un peu, c'était là. On est bien fort sur notre montagne. Mais, sur l'autre montagne, de l'autre côté, il y a l'ennemi. L'ennemi est là, prêt à attaquer en face de nous. Il nous regarde comme ça. Et entre les deux, une vallée. Une vallée immense. Grande vallée. Je n'ai pas été spécialement voir ce que c'était que cette vallée. C'est la vallée d'Ela ou la vallée de Térébinthe. Je ne sais pas ce que c'est Térébinthe. C'est un arbre robuste, 10-15 mètres. Donc, rien de bien flagrant. Par contre, juste le fruit, vous savez, c'est quoi le fruit du térébinthe? J'ai appris, hein. C'est la pistache. Bien, hein. Apéro? Non. Eh oui. Voilà. Bah, rien à voir avec ça. Une vallée tout à fait, je peux dire, normale. Et au départ, je n'avais pas vu le nom de cette vallée. J'avais mis une vallée sans nom. Et j'ai eu envie de lui donner un nom. Et je l'ai appelée la vallée de l'ombre de la mort. Il aurait pu donner un nom plus sympa, hein. La vallée d'Apéro, par exemple, avec le petit tableau. La vallée de l'ombre de la mort, oui, comme dans le psaume 23, verset 4. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ben non. Hein. Tant que j'y passe et qu'il n'y a personne. Tant que c'est une vallée normale, hein, même la vallée de l'ombre, ça reste loin, j'ai pas peur. Tant que la mort ne reste qu'une ombre, bon. On allume la lumière et parti. Tant que je ne vois rien dans cette vallée, ben je reste en paix. Tant que tout est calme, pas de problème. Tant que mon ennemi le plus dangereux reste sur sa montagne. Je reste sur la mienne. Je suis toujours fort, moi. Je ne descends pas dans la vallée. Mais quand la vallée devient un lieu de rencontre, c'est plus pareil. Quand Goliath y descend pour me faire douter, je suis quand même plus très chaud pour y aller. Quand il est là et qu'il harangue le peuple de Dieu, il nous dit que la parole de Dieu dit que le simple fait d'entendre ces paroles, Saül et tout le peuple étaient effrayés et saisis d'une grande crainte. Deux fois on répète, effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils avaient les chocottes. Rien que la parole de l'ennemi nous fait trembler. Il n'a encore rien fait, hein. Il a juste simplement lancé un défi. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? C'est bien marqué, le Philistin. Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Trois questions. Combien de questions nous font douter parfois? Combien d'interrogations nous font tracasser? Oh, comment je vais y arriver? Combien d'accusations nous font tressaillir? Goliath est seul. Il le déclare lui-même. Ne suis-je pas le Philistin? Bien qu'il a une armée qui est derrière lui, hein, mais son orgueil. C'est moi le maître. Je suis le Philistin. Les autres, je suis le meilleur. C'est moi le mieux. Tentation tout à fait classique, hein. Je n'invente rien. Quand Jésus dit à Pierre, le Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il est tout seul. Devant Dieu, il se présentera tout seul pour écraser Job. Tout seul. Il viendra tout seul. Alors qu'il a aussi une armée. Non. Lui aussi, son orgueil le fait venir tout seul. Ces accusations sont aussi... C'est aussi classique, les accusations. Hein. N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? T'es pas le petit, toi. N'êtes-vous pas que des pécheurs, esclaves de votre chair? N'êtes-vous pas que des êtres humains fragiles, sous le poids de vos émotions ou de votre influence? Tu ne pourras jamais te changer. Je te craindrai, je te vaincrai, tu seras mon esclave. Combien de personnes se sont leurrées dans les dires du tentateur accusateur et sont devenues enchaînées parce qu'on leur a dit que t'es comme ça. Regarde ton horoscope, tu verras, c'est vrai, ça marche. J'ai encore vu des chrétiens qui croisaient les doigts. Oh, croisaient les doigts comme ça, ça va marcher. Joue au loto de toute façon, hein. Dieu ne l'interdit pas. Tant que tu donnes la dîme. Un homme qui aime un homme, c'est toujours de l'amour. Tant qu'ils sont heureux. Hein? Tant qu'à faire. Combien de chrétiens se sont fait avoir par de fausses accusations? Ils ont traîné toute leur vie. Si tu parles pas en langue, tu n'es pas rempli de l'esprit. Bon, alors, pas beaucoup, hein. Dieu vous dit que vous êtes libre, mais parfois on est en prison du monde, rien de nouveau. Hein. Satan avait déjà dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Que des questions. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit, c'est vraiment marqué ce qu'il a dans la Bible. Les questions. Ah oui, après, oh. Il y a les questions des autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les questions qu'on se pose, les questions des autres qui nous effrayent. Verset 24. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Au cas où tu l'aurais pas entendu. Tu l'as vu? On nous fait regarde, on en remet les couches. Regarde, t'as pas entendu? Mais il est là. T'as vu tout ce qui se passe dans le monde? Tu penses que les églises vont tenir le coup? Et les politiques, qu'est-ce qu'ils font? T'as vu la pollution et l'état de la planète? Un peu plus près. Oh là là, t'as perdu ton travail. Comment tu vas t'en sortir? Et puis, c'est question de l'intéressé. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?
Oh, qu'est-ce que j'ai à perdre à faire un compromis avec le monde, hein ? Un petit peu de travail en noir, oh, petit mensonge, oh, peu d'aller, hein ? Qu'est-ce que j'ai à gagner si je résiste pas à la tentation ? Des questions différentes qui, n'ayant pas le même but, sont portées par l'intérêt. L'intérêt qu'on porte pour nous. De toute façon, si je combat, Dieu me bénira, hein. Bon, je travaille que pour lui quand même, je fais quand même pour lui. Oui, bien sûr. Mais si je crois qu'il fera au-delà de ce que je pense, alors il fera beaucoup plus. Si je le fais encore uniquement que pour sa gloire, pourquoi me faire par intérêt pour moi? Il y a des gens qui prient pour avoir quelque chose, pour moi, tout seul. Fais-le pour la gloire de Dieu. Tu arriveras à appeler au-delà qu'il dit. C'est lui qui l'a dit. Quand David t'a posé la question, c'est sûrement pas pour devenir le gendre du roi, parce que c'est ce qui était promis, ni pour avoir la gloire ou l'argent. Son intérêt, juste tourné vers Dieu. La question de David, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écrasera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? La seule préoccupation de David, c'est la honte de son peuple. C'est la honte de son peuple et l'insulte envers l'armée du Dieu vivant. On critique son Dieu, on insulte son Dieu. David ne s'est pas laissé impressionner par les dires de l'ennemi et les ragots des autres. Il n'a qu'une vision, une seule pensée, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu au travers de son peuple et de son armée. La gloire de Dieu au travers de l'Église, de nous. Qui s'en soucie encore? Je voyais malheureusement sur le site un pasteur de notre église, une croix qui était bariolée d'un arc-en-ciel. Vous savez que l'arc-en-ciel, maintenant, n'est plus ce qu'il est. Hélas. L'arc-en-ciel, c'est tout ce qui est homosexuel ou autre. La croix était arc-en-ciel. Oui, bien sûr qu'il est mort pour eux. Bien sûr. Mais pas que pour eux. Mais il n'y a pas qu'eux. Il y a tous les autres. David ne s'est pas laissé impressionner. Mais l'opposition n'est pas terminée. Encore des questions. Son propre frère va lui poser aussi des questions. Pourquoi es-tu descendu ici et qu'as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Où tu vas, toi? Oh, le petit, là. C'est qui, toi? Où tu vas? Pourquoi t'as abandonné ton activité qui nourrissait? Pas n'importe quoi. C'est ton orgueil, ta méchanceté qui te fait agir. Comme quelqu'un, tu veux arriver là, prendre la première place, tu te présentes comme un super-héros, tu veux toujours être en avant. Pourquoi as-tu quitté ton petit coin pour venir te pavaner dans mon église, dans ma bataille? David se défendra sans juger, en tant que bon juif, une question. Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? En toute sagesse, il n'a pas le moindre reproche vis-à-vis de son frère. Non, je n'ai pas le droit de m'exprimer. C'est en toute sincérité, sagesse et humilité que celui qui va bientôt être roi, il a été loin, mais il est toujours dans l'anonymat, il va remettre son frère aîné en place. En l'absence du père, c'est lui qui a l'autorité. Le jeune David ne va pas se laisser déstabiliser ni être détourné de son objectif, la gloire de Dieu uniquement. Et enfin, la dernière attaque de l'ennemi, le dernier recours pour faire plier, pour casser. Verset 42, le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Goliath ne regarde qu'à l'apparence. Il ne voit que l'extérieur. Dans un premier temps, son regard se porte sur l'aspect de David, un enfant roux à la belle apparence. Heureusement hein, qu'il est bien spécifié à la belle apparence. C'est déjà quelque chose. Mais le mépris, c'est un gosse. Plus, apparemment, les roux sont mal vus là aussi. Il le compare à lui. Lui, il est grand, le toit. T'es que le balayure, t'es rien du tout. Ce géant nous écrase. Nous écrase par ses paroles méprisantes. Moi, ton problème, je suis trop imposant pour toi. Tu ne pourras jamais me terrasser. Tu n'es rien en comparaison de moi. Moi, à l'épreuve, je vais t'écraser. Dans un deuxième temps, Goliath va s'intéresser à ce que David a comme arme. Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Là, sa vue baisse un peu apparemment, parce que David n'a fait qu'un seul bâton. Il n'en a pas plusieurs. Il veut déstabiliser David en lui faisant remarquer qu'il n'est pas du tout équipé pour le combat. David n'a rien. Il a laissé juste l'armure que Saül voulait lui donner parce qu'elle était trop lourde. J'en ai pas besoin. Rien. Il n'arrive à rien. Pourtant, il y a des autres qui essaient parfois de nous protéger. Hein, les autres qui nous veulent des protections. Ils veulent, on a un problème, et les autres nous veulent nous donner des protections. Prends un cachet, ça ira mieux. Prends chez le psy, il est là pour ça. Prends quand même une assurance, on ne sait jamais. Dis-le au pasteur, sinon ça va te tomber sur toi. Fais-toi une boîte pour la soif. Et de nouvelles interrogations qui reviennent à la charge. Suis-je bien équipé pour le combat? Suis-je assez bon pour que Dieu me réponde? Suis-je prêt contre la Sainte Seine? Ai-je assez de connaissances bibliques pour m'en sortir? Est-ce que je connais bien ma Bible? Est-ce que ma foi est assez grande? Si David s'était posé toutes ces questions-là, il aurait fait demi-tour. Hein, il aurait donné le pain, la manger et puis... Il serait parti. David sait qu'il n'est pas seul. Même dans cette vallée où il n'y a personne, sauf lui et le géant. Psaume 23, verset 4, « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Quand je dis la première fois, je me suis arrêté là. Vous connaissez la suite. « Car tu es avec moi. »« Car tu es avec moi. » Peu importe où tu passes, je suis avec toi. Promesse divine, je suis toujours avec toi. Dieu est toujours avec nous. Si nous avons la moindre question, le moindre doute quant à la présence de Dieu dans nos vies, on ne va pas avancer, on va faire du surplace. Seigneur, est-ce que tu es bien là? Jésus, est-ce que tu es bien mort pour moi? On n'avance pas. On restera sur place. On restera toujours sur cette montagne avec la peur au ventre. On restera prostré dans nos pensées sans pouvoir en sortir. On sera écrasé par notre passé trop lourd à porter. Un peu comme l'armure de Saül que voulait faire endosser. Alors, j'ai envie de dire moi stop. Stop au questionnement. On retire le point d'interrogation. On n'a pas de réponse. Dieu est la réponse. Place aux affirmations. Dieu ne pose qu'une seule question à l'homme quand il a péché. Où es-tu? Où es-tu? Je te cherche. Et Dieu, il dit encore, je te cherche. Où es-tu? Ne te cache pas. Dieu, c'est toujours des affirmations. Je t'aime. Je t'aime, je suis venu mourir pour toi. Je te pardonne. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne te laisserai pas orphelin. Je bâtirai mon église. Tu es une créature merveilleuse. Tu es mon enfant. Je. Notre Seigneur nous veut aussi positif et affirmatif. Pas là, la pensée positive. Non. Savoir qu'il est là. Nous disposons de toutes les armes pour nous défendre et terrasser le géant. Toutes les armes. L'apôtre Paul nous dira, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On n'a pas besoin d'une armure à se balader. Ça va aller, bon. Non. Tout est puissance. Tout est donné par Dieu. Gratuitement, par la vertu de Dieu, nous renverserons. Nous renversons les forteresses. Géant ou forteresse, peu importe. Peu importe. Dieu nous a donné toutes les armes pour affronter et pour maîtriser le tout. Tout faire au nom du Seigneur et uniquement pour sa gloire. Pour sa gloire. Même si je pense de temps en temps à mon intérêt, pour sa gloire. Vous allez voir, tout va arriver après. Verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Encore une fois, aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux, du ciel et des bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Soyons affirmatifs avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la victoire sur mes pensées. Aujourd'hui, je prends la victoire sur mon passé qui me ronge. Aujourd'hui, je suis en paix avec le problème qui me bouffe. Aujourd'hui, par mes actes, les autres sauront que Jésus vit en moi. Aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir à l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui. Laissez pas passer cette chance. Je n'ai pas là l'intention de faire un appel. J'ai l'intention de dire plusieurs fois aujourd'hui, maintenant. C'est le moment, maintenant. L'arme qui terrassera Goliath n'est qu'un simple caillou. Un simple caillou que David a été puisé au fond de l'eau. Frères et sœurs, puissions-nous puiser profondément dans le torrent qu'est la parole de Dieu, dans le torrent d'amour, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour vraiment trouver cette pierre qui anéantira notre géant, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, quitte pas ce lieu, partez pas sans avoir dit aujourd'hui, je suis vainqueur, je suis un enfant de Dieu, je suis en toi, tu es mort pour moi. Affirmatif aujourd'hui. Amen. Père éternel, nous voulons vraiment nous mettre devant toi aujourd'hui, sachant que ce sera peut-être trop tard. Mais aujourd'hui, je veux être heureux. Je veux être en toi. Je veux être vraiment ton enfant, plein de paix, plein de joie, plein d'amour. Seigneur, aide-nous vraiment à voir les yeux uniquement fixés sur toi. Sur toi. Toi qui es amour, toi qui es notre papa, qui parfois sans cesse te dit, où es-tu? Aujourd'hui, dis-lui, je suis là, j'ai besoin de toi. Seigneur, vraiment que toute la gloire rayonne dans nos cœurs, que nous puissions être des témoins, qu'on puisse dire de nous, effectivement, Jésus vit dans leur cœur.